Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Débat jusqu'à midi sur Sud Radio, 0826 300 300 pour commenter l'actualité aujourd'hui. Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine,
bonjour.
François de Closet, journaliste, écrivain, bonjour.
Bonjour.
Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, et Otman Nasrou, vous êtes président du groupe LR et indépendant à la région Île-de-France et candidat municipal à Trappes dans le 78.
Bonjour.
Bonjour à vous, merci d'être là. Macron relance le grand débat sur les retraites à Rodez. Une opération de com, que va-t-il dire, que va-t-il faire, est-ce qu'il aura les manches retroussées, on en saura un petit peu plus, on va en reparler tout à l'heure. Que peut-il dire, que peut-il annoncer, dans la mesure où tout n'est pas encore complètement fixé. Les jouets pour enfants, de quoi se mêle le gouvernement? Les jouets sont sexistes, le gouvernement a décidé de publier une charte pour inciter les magasins de jouets à ne pas faire du rose pour les petites filles et du bleu pour les petits garçons. Est-ce que c'est vraiment le rôle du gouvernement? Et puis Bernard Pivot, Laurent Bouvet, liberté d'expression en danger. Est-ce qu'on a encore le droit de rire à propos, c'était à propos du tweet de Bernard Pivot hier sur Greta Thunberg qui a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux. On y reviendra dans un instant. On parle avec vous, on va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et on va aller retrouver Jonas Haddad qui est à Reims. Qui est à Rouen, pardon, excusez-moi. Pardon, Jonas Haddad, bonjour. Vous êtes avocat, vous êtes responsable politique, vous êtes dans un café à Rouen, vous êtes confiné, puisqu'on sait que ce matin, il y a eu une énorme explosion dans une usine. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe et ce que vous voyez?
Bah écoutez, ce qu'on voit, c'est un gros nuage de fumée noire qui continue à aller très très vite. Il y a deux rives à Rouen, donc la rive gauche et la rive droite. Moi, je me situe sur la rive droite. Donc, on voit arriver vers nous en permanence un nuage de fumée. Et là, depuis quelques minutes, en fait, on a des traces d'hydrocarbures sur les voitures, sur les trottoirs. Donc, c'est assez inquiétant.
C'est l'incendie dans un site Céveso. Hein. Il y a plus de 200 pompiers qui sont toujours mobilisés, indique le pompier. Ça a explosé pour une raison inconnue. Est-ce que vous apercevez, vous, le site ou pas?
Alors, on aperçoit le site. On a aperçu aussi des explosions. Certains, notamment en pleine nuit, ont vu l'explosion en tant que telle. Et en fait, la préfecture a décidé de confiner toutes les personnes qui sont dans un rayon autour.
500 mètres,
Voilà, et tous les établissements publics ont été fermés. Il y avait pas mal de manifestations auxquelles je devais participer là dans la journée. Tout a été annulé.
Oui. Les écoles sont fermées également. Toutes les écoles proches sont fermées de la métropole de Rouen.
Voilà, de toutes les écoles de la métropole. On nous a conseillé, il y a des sirènes qui ont retenti dans la ville, et on nous a conseillé de laver tous les fruits et les légumes en cas de consommation aujourd'hui de fruits ou de légumes qui auraient été cueillis dans la métropole.
Oui. Voilà. Enfin, il risque de. Donc on ne sait pour l'instant pas pourquoi cette usine a explosé. Une usine donc classée, c'est l'usine de Lubrizol, classée Céveso, seuil haut. Et donc je rappelle, une zone de confinement. Merci d'être intervenu ce matin, Jonas Haddad. Merci à vous. Et puis tenez-nous au courant. Vous interviendrez sur l'antenne de Sud Radio au cours de la journée. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va commencer avec Alexis Poulain qui fait une petite promo, c'est ça?
Une auto-promo éhontée.
Oui.
Voilà, c'est pour faire la promo de mon concert. J'ai un groupe de rock qui s'appelle Blackpool et on joue ce soir quelques chants punk et révolutionnaires à 22h à Studio Campus. C'est 22 rue Froment à Paris pour les Parisiens qui aiment le rock'n'roll. Et voilà, ça changera de m'entendre parler derrière un micro. Là, je hurle derrière
vous
le micro.
Vous hurlez, voilà. Bon, alors, je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train de prendre leur billet de train pour venir vous voir. Otman Nasrou, votre coup de gueule?
Moi, mon coup de gueule, c'est qu'il faudrait quand même que dans notre pays, on arrête parfois de faire la grève avant même d'avoir commencé à discuter ou avant même d'avoir le détail de ce qui va être fait.
Je ne vais pas me faire des amis
en disant ça, mais je pense à la grève dans les transports qui va continuer. On voit bien que le mois de décembre va être un mois qui va s'annoncer difficile. Je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de gens dans notre pays qui n'ont pas d'autre choix que de prendre les transports pour aller travailler. Et autant je comprends qu'on ait envie de protester, mais enfin, on a quand même une culture du conflit social dans notre pays qui me semble problématique. Et donc, ce sera mon coup de gueule, même si je sais que je ne vais pas me faire que des amis en le disant.
Ben oui, la grève dans les transports, ça suscite toujours beaucoup de réactions. Judith et François de Closet, vous avez le même coup de cœur.
Qui,
oui, oui. Alors, je ne sais pas si François Tauzet, c'est quoi votre.
Non, bah, moi, je ne sais pas d'ailleurs si c'est un coup de gueule ou un coup de cœur, parce que j'ai toujours été très révulsé par cette histoire « balance ton porc », et Dieu sait que la cause féminine est quelque chose qui me tient à cœur suffisamment pour qu'on ne la traite pas comme ça, parce que c'est la pire façon. Et donc j'ai un coup de cœur pour ce jugement, là tout de même, donc, la justice a remis les choses en place.
On rappelle
qu'est-ce
que Sandra Müller...
Sandra Müller, qui avait lancé ça, a été finalement condamnée par rapport à la personne qu'elle avait attaquée. Alors, d'un mot, il y a toutes sortes de raisons d'être mécontent dans notre société. Nous sommes dans une société où il y a des règles de droit que l'on peut respecter et par lesquelles on peut essayer de se faire entendre. Et puis, il y a de plus en plus la tentation de s'en affranchir. Je suis contre les radars, je casse les radars. Je suis contre ceci, je bloque la circulation et j'injurie et je ne respecte plus aucun code. Et là, c'est exactement ça. Oui, il y a une situation scandaleuse qui est faite aux femmes face aux agressions sexuelles. Oui, il faut dire aux femmes, vous devez porter plainte. Oui, il faut les aider à se faire entendre en justice. Eh bien non, il suffit de dire sur la place publique, un tel il m'a violé, un tel il m'a accusé. Et comme bien on pense, il se trouve que ce premier cas était un cas particulièrement mauvais, puisqu'en l'occurrence il s'agissait d'un type qui, dans une soirée affinée, avait tenu des propos gravuleux qui relèvent de la paire de claques, et qui n'était pas du tout le supérieur hiérarchique, qui n'a pas récidivé, donc il n'y avait pas de harcèlement, il n'y avait rien, et hop, on lance son nom sur la place publique et il perd son job et il se trouve dans une situation horrible parce que tout le monde se retourne contre lui. Et vraiment, donc, Müller a été condamné, la justice a rétabli les choses. Alors, oui, il ne s'agit pas pour les femmes de balancer son porc, il s'agit d'être impitoyable pour faire condamner ceux qui se rendent coupables, en sachant que c'est très difficile parce que le doute profite à l'accusé et que donc il profite à l'homme dans ses affaires parce qu'il y a très souvent doute, n'empêche que c'est comme ça qu'il faut y arriver et pas en faisant appel au jugement. Le pilori, c'est après la condamnation, c'est pas avant.
Judith,
Je suis pleinement d'accord. Effectivement, moi, mon coup de cœur était pour ce jugement. Et j'ai été agréablement surprise parce que c'est tellement pas l'air du temps, notamment pour la justice, d'aller contre les vents dominants.
C'est la diffamation qui a été reconnue.
Donc délit constitué. Mais rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines à peine, les décrocheurs de tableaux d'Emmanuel Macron, du portrait du président de la République dans les mairies, se sont vus relaxés par un juge qui considérait aussi que le délit était constitué. C'était le délit de vol, mais que ces militants avaient parfaitement raison, un juge militant donc, qui est allé dans le sens du vent. Donc chapeau aux juges qui ont condamné Sandra Müller.
Moi je trouve très dommage toute cette affaire, parce que je trouve qu'elle fait du tort à la cause des femmes, parce qu'elle a libéré une parole. C'est elle qui a lancé ce mouvement et qui a libéré une parole. Effectivement,
pardon,
cet homme...
c'est pas elle qui a lancé MeToo.
Non, c'est pas elle. Elle a lancé en France MeToo.
Elle a lancé la version dénoncée.
Voilà. Non. Mais combien, alors je repose cette question, combien de noms, citez-moi cinq noms qui ont été balancés. Citez-moi cinq noms.
Et alors?
Et alors, vous dites tous, c'est un appel à la délation.
Non, à l'heure actuelle.
Elle a commis un délit.
Valérie, mais à l'heure actuelle, monsieur Placido Domingo, uniquement parce que son nom a été lancé, parce que pour le moment il avait été condamné, est interdit de scène.
Kevin Spacey également. Et tout ce que je vous dis, c'est l'argument de dire c'est l'occasion de délation. Je suis désolée, il n'y a pas eu de délation. Il n'y a pas eu cinq noms qui ont été balancés dans les médias en France.
Il y en a eu quand même.
Alors allez-y, citez-les-moi.
Ce journaliste de LCP...
On ne va pas reciter des
voilà,
noms.
On va pas citer des noms, sachant qu'il y a des affaires judiciaires.
Il y a eu des cas dans la presse.
Il y a eu quelques noms.
Mais quelques noms. Quelques noms, mais je trouve que c'est
un certain Nicolas Hulot qui a été accusé à la une partout. Qui a été acquitté en 12 plus
non,
personne.
Non, il n'a pas été acquitté. Attendez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Il n'a pas été jugé. Il a pas. Il a dit qu'il
ne. Non,
non, non. Il n'y a pas eu de jugement. Il a dit qu'il porterait plainte et lui très opportunément a retiré sa plainte le 24 décembre. Donc c'est pas exactement la même chose. François Closet.
Il n'a pas été condamné.
Mais il n'a pas porté plainte. Mais
il
a non, non. Mais il n'a pas porté plainte lui pour diffamation.
C'est beaucoup plus grave.
Mais pourquoi il n'a pas porté plainte?
S'il a été accusé sans que les femmes aient porté plainte. Alors ça, c'est insupportable.
Alors pourquoi il porte pas plainte pour diffamation?
Les hommes,
François Closet, pourquoi il porte pas plainte pour diffamation, Nicolas Hulot? Pourquoi il porte pas plainte pour diffamation?
Parce que probablement, difficile d'établir la réalité.
Il l'a fait, lui. Éric Brion, il a porté plainte pour diffamation. Il s'est estimé injustement.
Il a gagné.
Pourquoi Nicolas Hulot ne l'a pas fait?
C'était tellement énorme qu'il était sûr qu'il allait gagner. Le plus souvent, ce qui est vrai, c'est que dans ces affaires, c'est une histoire parole contre parole. Donc il y a un doute. En droit français, le doute profite à l'accusé. Donc il est vrai que notre droit est machiste.
Moi je trouve juste
mais qu'on ne peut pas le changer. Mais parce qu'il profite aux hommes et là aux femmes, mais on ne peut pas faire autrement.
Attendez,
je ne veux pas changer de droit.
Vous voudriez que le doute
mais non, je ne veux pas
profite
changer
à l'accusé.
De droit. Mais reconnaissez que le doute profite à l'accusé sur le plan sexuel, c'est bon pour les hommes.
Éric Brion a perdu son boulot.
Oui, non, mais il a perdu.
Voilà, une fois que c'est passé, on revient pas en arrière.
Non, on revient pas en arrière, c'est sûr. Et il est aujourd'hui partout dans les médias pour raconter.
Valérie, je suis très étonnée de vous voir défendre la thèse.
Oui, allez-y.
Je suis très étonnée de vous voir défendre la thèse des dommages collatéraux inévitables. Quand on fait du droit, quand on prétend vivre dans une société de droit et d'équité, on ne dit pas, c'est pas grave s'il y a des réputations détruites.
Non, c'est très grave. Parce que j'ai commencé en disant qu'elle avait porté préjudice à la cause des femmes avec ce tweet, en balançant ce nom.
Elle a porté préjudice à sa victime, déjà.
Oui, mais, hein,
Vous qui vous battez pour la reconnaissance des droits des victimes, la victime, c'est l'homme qu'elle a accusé à tort.
Tout à fait à tort.
Mais dans les termes utilisés,
c'était tout à fait à tort.
Complètement à tort.
Elle n'a pas été harcelée.
Michael vous conseille de lire le livre de Mazarine Pinjot qui raconte l'histoire de Nicolas Hulot, qui a été très peu relayée d'ailleurs dans les médias. Enfin, elle dit que non, mais c'est à peu près la même histoire quand vous lisez les choses. C'est assez étonnant. Le livre est assez troublant. Bref, on va passer à la suite et au grand débat d'Emmanuel Macron. On se retrouve dans quelques instants.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on va parler du grand débat sur les retraites à Rodez. Exercice de com', est-ce que c'est utile? Christine Bouillot, qui est à Rodez, nous dit que les gens sont assez dubitatifs sur cette intervention du président de la République. Mais je voulais qu'on revienne sur cette charte d'engagement volontaire que l'exécutif a signée mardi à destination des fabricants et des magasins de jouets. L'objectif de ce document est de promouvoir une répartition plus mixte des jouets. Donc ça veut dire qu'il faut permettre aux filles de se projeter dans des carrières où elles sont sous-représentées, donc de proposer des jouets de science avec des petites filles sur les boîtes, par exemple, concrètement. Donc les fabricants et les distributeurs s'engagent à supprimer la catégorisation jouets filles, jouets garçons dans les catalogues, à faire disparaître les rayons séparés marqués par des univers roses ou bleus dans les magasins, et voire en finir avec des formulations exclusivement masculines ou féminines, comme par exemple les héros ou les princesses. Et puis dans le même temps, on apprenait que Mattel venait de mettre en rayon une Barbie non sexuée. C'est à l'enfant de décider si ce sera un homme ou une femme. Une Barbie sans genre. Ça vous fait tous rigoler autour de la table, Alexis ?
C'est des jouets. Ça existe depuis l'Empire romain. Il y a des petites filles, des petits garçons. Les petits garçons, ils aiment bien jouer à la guerre. Et les petites filles aiment bien jouer à la poupée. Bon, alors, il y a des petits garçons qui aiment jouer à la poupée, des petites filles qui aiment jouer à la guerre. Tant mieux. Mais quand on arrive à ce niveau, alors c'est très bien, moi, je trouve, d'ouvrir les carrières, effectivement, de dire qu'une petite fille va pouvoir s'orienter vers une carrière scientifique, chercheur. Ça, c'est super, je suis d'accord, et c'est une très bonne chose. Après, qu'on arrive dans des trucs... l'étape d'après, c'est quoi? C'est qu'on va attaquer les contes de Grimm, les contes de Perrault...
Ah non, ça, c'est l'étape d'avant.
Ouais, l'étape d'avant, ça a déjà été fait.
Oui, c'est vrai. Enfin, voilà, vous dire...
La belle au bois dormant qui se fait violer...
Le confusionnisme total qu'on fait, parce que le patriarcat qui a construit, bien sûr, notre civilisation et notre culture est mis au pilori, très bien, mais il y a des limites au ridicule. C'est-à-dire que là, enlever le bleu, le rose, je suis d'accord aussi, le code couleur, pourquoi pas, on peut en changer, hein, on va mettre du vert partout, en ce moment c'est la mode, mais je vois pas ce que ça va changer dans le besoin des enfants, finalement, de s'identifier à leur mère, leur père, ce qu'ils voient autour d'eux, ou l'envie qu'ils ont de faire quelque chose. Alors peut-être à la marge, peut-être qu'on va avoir des surprises, pourquoi pas, c'est une expérience intéressante. Oui.
Non, il y a deux choses qui sont là totalement différentes. Il y a l'histoire des jeux et du conditionnement de toute petite. L'enfant verra que la science, ah, c'est un homme qui est là, que le ménage, c'est une femme, et ça, c'est mauvais, et qu'il faille changer ça, je suis d'accord. Mais, quand on veut, pour faire supprimer la situation de supériorité de l'homme sur la femme. On veut faire en sorte, mais il n'y aura plus de sexe, il n'y a plus d'homme, il n'y a plus de femme. Ce qui est la Barbie dont les enfants décident à volonté, sont un garçon ou fille. Je suis totalement homme, je me suis toujours senti homme et j'ai une envie folle que partout les femmes soient égal à moi, j'ai été commandé, entre guillemets, par des femmes, par Brogniaux, par Cotta, etc. Je trouvais ça formidable, mais c'est en affirmant, il n'y a pas de contradiction entre affirmer son sexe, masculin en l'occurrence, et se battre pour l'égalité des sexes. Dire qu'il faut faire disparaître la différenciation sexuelle pour faire disparaître la domination du sexe masculin, c'est monstrueux. Mais alors, accepter qu'on maintienne le conditionnement sur le rôle des femmes et des hommes, c'est effectivement aussi détestable.
Audrey nous dit, quelle tristesse ce genre d'idée, mon fils fait de la danse, il se fait moquer par des enfants, même par des adultes, il y a encore du boulot quand j'entends les réflexions qu'il peut y avoir. Judith, pardon.
Moi, je pense depuis longtemps qu'il y a une tentation totalitaire, et je pèse mes mots, à considérer qu'en changeant les représentations, on change la réalité. Oui. On a vu ça pour
le vocabulaire. Quand l'imbécile regarde le doigt quand on lui dit de regarder la lune.
C'est à moi que dit ça.
Jusque-là,
l'émission était conviviale.
Mais c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on dit, on prend les choses par le petit bout de la lorgnette.
C'est totalitaire. Et quand, en plus, c'est un membre d'un gouvernement qui se livre à ce genre de pratique, je trouve ça carrément détestable. Alors, c'est vrai que Madame Pannier-Runacher, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, est en mal de notoriété. Est-ce qu'elle l'a fait pour
c'est
ça
qui
Est-ce qu'elle l'a fait pour ça? Est-ce qu'elle l'a fait pour être convaincue? Dans les deux cas, c'est une
Est-ce que le gouvernement doit intervenir? C'est la question.
Accessoirement, je ne sais pas si ça vous est sûrement arrivé d'aller dans un grand magasin remorqué par un enfant, petite fille ou petit garçon, qui a une idée très précise de ce qu'il veut.
Absolument.
Mélanger les rayons.
Compliquer les choses.
C'est ça, mélanger les rayons. Homme-femme, vous allez voir combien d'heures vous allez passer dans ce type de magasin. Déjà, c'est compliqué, mais alors là, ce sera un festival. Donc, c'est vraiment stupide et dangereux.
Oui. Alors, je vous donne la parole, Othman. On a Myrène en ligne avec nous qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour, Myrène.
Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Voilà, moi je suis consternée, voilà, comme d'habitude. Consternée parce qu'on a des lobbies là, féministes qui sont stupides. Et maintenant, moi je voulais dire une chose parce que je corrige les concours administratifs, je suis prof. Moi je suis désolée, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Il y a de plus en plus de médecins femmes, des profs femmes. Et dans les administrations, je suis désolée, on est essentiellement gouvernés par des femmes. Moi, je recrute à 90% des femmes.
Mais donc, sur ce point précis des jouets pour enfants, est-ce que vous pensez qu'on peut changer les comportements en changeant le packaging des jouets, la disposition dans les magasins de jouets, en proposant...
Justement, pour répondre à ça, moi je vais répondre sur le plan linguistique, parce que là, il y a un paradoxe incroyable dans cette société française, où on essaye de dégenrer l'enfant, c'est-à-dire de lui ôter tout genre, c'est-à-dire il n'y a plus de garçons, il n'y a plus de filles. En revanche, dans le discours politique, on voit apparaître depuis 2 ou 3 ans là, des différenciations inutiles, genre en français, je suis désolée, on a au pluriel un neutre qui s'appelle tous, qui est tous, effectivement, qui est masculin, mais il se trouve qu'on arrive du latin. Alors, laissons tomber le français, puis parlons tous anglais.
Merci, Myrène, d'être intervenue. On se retrouve, 0826-300-300, jouets pour enfants, est-ce qu'ils sont sexistes? Dites-nous ce que vous en pensez. On est avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, nous parlons aujourd'hui de ces jouets pour enfants qui ne devraient plus être indiqués qu'ils sont pour garçons ou pour filles, genrés comme on dit. Donc c'est le gouvernement, l'exécutif qui a signé une charte d'engagement volontaire pour les fabricants et les magasins de jouets. On a envie de leur dire, est-ce que vous n'avez pas autre chose à faire? Thierry nous dit, occupons notre énergie sur les enfants et les femmes battues effectivement sur la situation des enfants. Othmane Nasrou.
Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, parce que si au moins cette affaire qui ne sert à rien, on est entièrement d'accord, pouvait servir au moins indirectement à une chose, c'est effectivement comme l'a dit François de Coisey tout à l'heure, il y a un vrai sujet au moins sur les jouets scientifiques. Aujourd'hui, si vous voyez un jouet scientifique, il y a 75% de chances qu'il soit offert à un petit garçon et 25% seulement de chances qu'il soit donné à une petite fille. Donc c'est vrai que là, on a des représentations, des clichés, et donc effectivement, au moins, pour ne pas que les petites filles se considèrent comme nécessairement éloigné d'un métier scientifique ensuite, je peux comprendre ce sujet-là. Mais alors à part ça, quand on rentre dans le rose ou dans le bleu, quand on rentre dans la poupée non-genrée, et moi je vous dis ça, je suis élu à Trappes, on a fait des cours de récré non-genrés, comme si la priorité dans les écoles de Trappes aujourd'hui, c'est que les petits garçons ne jouent pas au milieu de la cour au foot, mais que tout le monde trouve sa place dans la cour de récréation. Il y a d'autres manières de se battre pour le combat de la mixité et de l'égalité, qui est un combat important, moi je ne dis pas le contraire, Que d'être uniquement sur le superficiel et la représentation pure, abstraite et théorique. Donc là-dessus, on est entièrement d'accord. Néanmoins, il y a quand même un sujet, notamment sur la question des métiers scientifiques, sur laquelle les jeunes filles et les jeunes femmes s'auto-censurent énormément. Mmh. Et le gouvernement aurait pu lancer une campagne de prévention ou de message là-dessus plutôt que cette charge.
C'est de moins en moins vrai. D'ailleurs, la prof qui a appelé Sud Radio tout à l'heure l'a dit. En revanche, vous voyez, c'est marrant parce que sur les cours de récréation et plus généralement sur le comportement des petits garçons avec les petites filles à l'école, je trouve qu'il y a vraiment, vraiment une vigilance de tous les instants à exercer.
Sur les relations entre les garçons et les petites filles.
C'est ce que vous disiez.
C'est vrai que on prend le problème d'un petit bout de la lorgnette, en réalité. C'est vrai que c'est sur... façon plus large de voir comment la société peut encourager l'affirmation des femmes, enfin simplement l'égalité. Mais commençons par l'égalité salariale, ça c'est important. Là on peut faire des lois.
On vous explique que c'est comme ça qu'il faut commencer pour que les femmes aillent dans des métiers.
Mais bien sûr que non, commençons par imposer l'égalité salariale. Et là on verra la différence.
Mais moi je suis d'accord avec Judith quand elle parle d'un totalitarisme, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une sorte d'imprimature, d'injonction à ça.
C'est très important ce que vous disiez sur la science. Pourquoi ? Parce que les filles sont plutôt meilleures que les garçons dans le secondaire, et puis elles doivent choisir au supérieur, et toutes, elles vont, disons, dans les disciplines littéraires, tout ce que vous voulez, voire biologique. Franchement, regardez les pourcentages, ça augmente tout doucement.
Aujourd'hui, les femmes médecins sont majoritaires, femmes magistrates sont majoritaires.
Je parle des métiers scientifiques.
C'est-à-dire de la recherche.
Et j'ajoute technique, des métiers de sciences dures, tant que c'est proche de la vie. Tous les métiers de médecine et les disciplines biologiques et tout ça, il y a autant de femmes que d'hommes. Mais dès que vous arrivez dans ce qu'on appelle les sciences dures, les sciences mathématisées, la mécanique, la technique, la physique, les filles s'en détournent complètement. Il faut le reconnaître, il y a un problème, c'est manifestement un problème culturel parce que je ne crois pas qu'il y ait un gène des équations qui est les hommes et un gène des équations qui n'est pas les femmes. Non, c'est culturel et vous avez tout à fait raison.
Donc vous êtes d'accord avec le gouvernement. Si c'est culturel, c'est qu'il faut changer la culture et expliquer aux petites filles qu'elles peuvent...
C'est une des nombreuses actions qui seraient à mener pour amener les filles. Moi, j'ai parlé à une dame qui était directrice du Conservatoire National des Arts et Métiers. Mmh. Elle avait à peu près 6% de filles. Elle m'a dit, monsieur, il faut faire des quotas. On a tout essayé. On n'y arrive pas. Il faut augmenter la présence des filles. Je ne sais pas comment faire autrement que faire des quotas.
Non, mais c'est vrai. La secrétaire d'État, elle fait un constat économique. Elle rappelle que les secteurs de l'industrie et de l'ingénierie ne comptent que 30% des femmes, alors que les femmes sont majoritaires dans l'obtention des bacs scientifiques. Donc, elles ne vont pas dans ces carrières-là.
Deux informations qui contredisent le tableau désespérant que vous venez de faire, François.
Non, regardez. Je vous parle des... sciences dures, de la technique, de la mécanique, de la physique. Bon, ne vous parle
la physique,
pas
on doit la photo d'un trou noir
à une sciences humaines et biologiques. Photo, les sciences humaines et biologiques attirent encore plus les femmes que les hommes. Je vous parle des sciences dures. Bon, on appelle ça comme ça.
En tout cas, les vendeurs de jouets maintenant ne diront plus c'est pour un garçon ou pour une fille. Ils vont dire qu'est-ce qu'aime l'enfant. Voilà. Donc vous avez une chance sur deux pour qu'on vous réponde.
Il y aura un flic derrière chaque vendeur pour vérifier.
C'est ça, qui choisit bien.
Non, madame, je ne vous
dérangerai pas. Bien.
Prenez la Barbie genrée. Donc ça sort aux États-Unis, cette Barbie qui n'a pas de sexe. Et c'est l'enfant qui
j'aimerais
va
bien qu'il y ait,
choisir.
Que des ministres, non pas par obligation, mais simplement quand ils s'expriment, parlent par exemple des familles où ce sont systématiquement les petites filles qui aident à débarrasser la table et à faire la vaisselle pendant que les petits garçons jouent à des jeux vidéo. Par exemple, des problèmes culturels, de discrimination culturelle et de misogynie culturelle qu'on rencontre en France. Mmh. Mais ça, c'est un sujet tabou, évidemment. Il ne faut pas s'y attaquer.
Emmanuel Macron est à Rodez aujourd'hui, le grand débat sur les retraites. Christine Bouillot ce matin, qui était en reportage, vous avez pu entendre dans la matinale, on a entendu un auditeur qui disait « Il nous met devant le fait accompli en disant qu'il va discuter, mais en sachant déjà ce qu'il veut faire. » Alors est-ce que c'est encore une fois un coup pour rien ?
Déjà, c'est retour à l'acte 1. Je croyais qu'on était dans l'acte 2 où Emmanuel Macron prenait de la hauteur. D'ailleurs, c'est Édouard Philippe, le Premier ministre, qui était censé monter au front sur le dossier des retraites. Et là, hop, terminé. On ressort Emmanuel Macron. Pour un grand débat.
Pour aller convaincre de l'utilité de la réforme. Mais sauf que la réforme, on n'a pas de
temps. Pour un grand débat dont le statut ne correspond pas à la promesse initiale. Pas initial d'ailleurs, à la dernière promesse sur la réforme qui était, Édouard Philippe, tout est ouvert. Tout est ouvert, ça veut dire il y a du grain à moudre, il y a matière à négocier. Un grand débat, ce n'est en rien une négociation. Est-ce que ça sera en plus ? On n'en sait rien du tout pour l'instant. On ne sait absolument pas en est Emmanuel Macron de sa volonté de réformer les retraites depuis qu'il a fait marche arrière sur l'histoire de l'âge pivot qu'il a retiré. Je rappelle que l'âge pivot, c'était l'âge auquel on pouvait partir avec sa retraite pleine, qui n'était pas 62 ans, qui est l'âge légal auquel on peut partir à la retraite, mais 64 ans. Bon, ça, c'est terminé.
Ouais.
Mais pour le reste... On ne sait pas ce qu'il y aura dans la réforme,
et cette question qu'on a déjà posée ici, qu'a fait Jean-Paul Delevoye pendant 2 ans.
Débattre n'est pas négocié.
La réforme, elle est écrite par Delevoye. Il a travaillé avec les partenaires sociaux, tout était sur la table, tout le monde était à peu près d'accord. Sauf que, arrivent les municipales, il ne faut surtout pas sortir les sujets. Donc, que fait Emmanuel Macron ? Ce qu'il fait depuis le début de ce quinquennat,
il
avance masqué, il enfume, il dissimule, et il ne veut pas dire clairement les choses, parce qu'il faut gagner les élections, et c'est tout. Et après, les municipale, on sortira la réforme, personne n'aura été impliqué dans un changement d'une virgule ou d'un point. Et je ne comprends pas que les partenaires sociaux, je ne comprends pas que les Français pensent qu'on peut encore dialoguer avec ce gouvernement. C'est de la mise en scène. C'est de la blague. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir Emmanuel Macron qui se remet en scène comme il l'a fait dans le grand débat, pour faire de la pédagogie, pour expliquer son truc, en disant « Je vous écoute, c'est super, mais tout est décidé, tout est signé. » Sauf qu'on sortira ça après les municipales en voyant les scores qu'on a fait, ou les sénatoriales.
J'aimerais bien,
il va le faire.
Non, c'est quand même beaucoup plus subtil que ça. l'histoire, oh, il en fume, il veut rien faire, tout ça. Non, s'il vous plaît. Sur le problème des retraites, justement. Je crois qu'il y a eu la séduction par Macron d'une idée très simple, la retraite à points. Intellectuellement, on dit oui, bien sûr, c'est évident. Mais plus c'est simple dans le principe, plus c'est compliqué dans l'application. Et c'est ce que je pense qu'il a découvert au fur et à mesure. Et qui plus est, l'avantage de la retraite à point, ça supprimait le problème de l'âge. Vous partirez quand vous estimerez qu'avec vos points, vous pouvez vivre tranquillement, autrement vous continuerez, c'est à vous de choisir. C'était formidable. Et puis, il arrive et il voit d'abord qu'il y a les régimes spéciaux et que, évidemment, on se fout éperdument de la retraite des Français. On l'a massacré en 93, ils n'ont pas moufté. En revanche, les régimes spéciaux, c'est les régimes de la nuisance, c'est ceux qui peuvent faire mal, et c'est uniquement pour ça qu'on les avantage. Donc là-dessus, il ne peut pas. Deuxièmement, il y a les régimes autonomes, c'est-à-dire des métiers où, évidemment, les avocats disent « Non, ça va très bien, fichez-nous la paix, évidemment. » Les avocats, il y a quatre actifs pour retraiter les cheminots, il y a... de retraités pour un actif. Or, si vous ne globalisez pas, vous ne mutualisez pas tout ça, ça devient fou. Mais d'un autre côté, et les régimes spéciaux et les caisses autonomes disent non, nous, on veut rester en dehors. Donc, il n'y a plus qu'à mutualiser ceux qui n'ont aucun avantage. Et donc, c'est très compliqué à expliquer. Mais il faut expliquer que, de toute façon, c'est inscrit dans la démographie. Nous travaillerons plus longtemps, car nous n'allons pas faire payer des années supplémentaires de retraite aux générations qui nous suivent et qui n'en peuvent plus de nous supporter.
Oui, Otmane Nasrou. Qu'est-ce qu'il va expliquer Emmanuel Macron ce soir? Parce que c'est extrêmement complexe, c'est compliqué.
Moi, je ne reprocherai jamais de vouloir se déplacer, d'expliquer, de débattre, même si effectivement, on peut dire il sait déjà où il va aller. Moi, je pense que dans le détail, il y a encore beaucoup de points qui restent à clarifier sur la manière dont on va... supprimer ces régimes spéciaux. Moi, je suis favorable au principe de la réforme, même très favorable à la suppression des régimes spéciaux, mais il faut voir comment tout ça...
Ça a déjà été reporté transition. À 2040.
Et ce qui me gêne, vraiment, alors déjà effectivement sur l'application, mais ce qui me gêne, c'est effectivement qu'on est décalé après les municipales, parce qu'évidemment qu'il y a une logique politique, mais surtout, c'est reculé pour mieux sauter.
Ou ne pas
sauter.
Le problème,
on fait que le décalé, ça fait déjà 2 ans de concertation, donc j'aurais aimé effectivement qu'on aille plus vite, parce que de toute façon, si cette situation doit être explosive, elle sera explosive, et je pense qu'effectivement, on va vers un conflit social important. Mais moi, je comprends aussi les régimes autonomes qui ont l'impression, eux, d'être excédentaires, d'avoir bien géré le régime, et
Tout
à coup, vont mettre la main sur leur argent. Il va falloir leur expliquer et trouver la manière de les intégrer à un régime qui est essentiel, un régime par points universel, mais peut-être en gardant pendant quelques années leurs avantages à eux, peut-être sous la forme d'une couverture supplémentaire, qui est une manière de garder leurs excédents et leurs bénéfices, tout en les fondant dans le régime général. Et c'est là-dessus que le gouvernement est attendu, mais on ne peut pas nous expliquer qu'il va falloir une troisième année de débat.
Mais ça va être interminable, il l'a dit. Oui, on va résoudre. On va résoudre un à un les problèmes des régimes spéciaux, des caisses autonomes, etc. Mais il y en a pour 10 ans. Effectivement, c'est d'une complexité épouvantable. Mais le fait est qu'on ne veut pas dire la vérité aux Français. Oui, c'est inscrit dans la démographie. C'est déjà en France que les retraités pèsent le plus lourd sur les générations au travail. Eh bien, il faut savoir que la retraite, c'est un jeu à somme nulle. Tout ce que prennent les retraités, ce sont les générations au travail qui le supportent, et on ne peut pas leur en demander plus. Et comme il y aura plus d'années à payer, eh bien, il faudra que les pensions diminuent et qu'on travaille plus tard. Personne ne veut le dire. Or, à partir de là, on peut discuter.
Il y a d'autres façons de voir les choses.
Alors, il n'y en a pas d'autres.
Si, si. Il y a beaucoup trop de chômeurs. Déjà, s'il y avait plus de gens qui travaillaient, si on mettait le travail égal à salaire égal pour les hommes et les femmes, on aurait davantage dans les caisses. Si on avait une taxation correcte et plutôt que faire encore de l'évasion fiscale, on aurait davantage d'argent dans les caisses. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gains de productivité? Qu'est-ce qu'on fait de
tous ces gens qui
trouvent? Attendez.
L'idée, le roi du trésor inconnu.
Mais non, mais c'est pas ça. Non, mais le trésor inconnu. L'argent est magique, c'est de l'écriture. Enfin, la finance est là pour créer
c'est
de l'argent.
Merveilleux.
C'est merveilleux.
Regardez
comment on sort. Mais non, mais bien sûr, il y a un trésor inconnu. Et on le sait.
Ah bah on est dans
on
la
a les chiffres des milliards. Mais le problème, c'est qu'on est en train de mettre les choses à l'envers. C'était quoi le progrès? C'était promettre une meilleure vie aux humains. Là, on est en train de dire, écoutez, on arrive au
bon
plateau.
Et c'est le bon Dieu qui vous avait dit que ça marchera toujours.
Non, attendez, attendez.
Vous y croyez. Mais non, mais le bon Dieu m'a dit qu'on aurait le progrès toujours.
Mais cette injonction du travail, de dire, il va falloir travailler plus. On n'a pas le choix. On ne doit pas faire autrement. Mais vous en faites quoi du progrès? Vous en faites quoi des progrès de productivité? Vous en faites quoi du droit de vivre? Simplement ça. En
disant, vous ne savez pas qu'aujourd'hui, les retraités vivent mieux qu'il y a 50 ans. Vous
n'avez pas remarqué. Ils ont pu avoir la retraite à 60 ans. C'est pour ça qu'ils vivent mieux.
Vous plaisantez.
Allez, on se retrouve dans un instant. 0800 26 300 300. On aura Martial avec nous. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, avec Judith Weintraub, François de Closet, Alexis Poulain et Othmane Nasrou. Nous parlions donc de la visite à Rodez du président de la République. Philomène nous dit ville morte, Rodez, aujourd'hui, pour la visite du président. Bon, c'est mesure de sécurité. Une visite pour quoi faire? Pour expliquer la réforme des retraites. Vous voulez réagir? 0826-300-300. Martial, vous êtes avec nous sur Sud Radio, on vous écoute. Bonjour.
Bonjour. Ce que je voulais dire, c'est que je suis assez surpris du raisonnement schizophrénique que j'ai pu entendre même tout au long de votre émission, où on reproche finalement aux Français de vivre trop longtemps, de vouloir vivre dans des conditions décentes, d'accord ? C'est-à-dire aujourd'hui, on nous dit qu'il faut travailler plus longtemps et puis il faudra des retraites moins importantes. Mais moi, j'ai envie de dire... Comment travailler plus longtemps, car dès qu'on est senior, on a énormément de mal à travailler, d'accord ? Donc il faudrait peut-être aussi réfléchir à ça, premier sujet. Deuxièmement, quand j'entends votre invité dire ben, « les retraites seront moins importantes », quand je mets en parallèle avec l'allongement de la durée de vie, les sommes que demandent les maisons de retraite pour garder les personnes qui ne peuvent plus être autonomes, là, quelle est sa réponse ? Moi, j'ai l'impression que c'est la quadrature du cercle. On est dans un raisonnement où tout le monde doit faire des efforts.
Oui, on vous écoute. Vous êtes là, Martial ?
Oui, je vous entends. Voilà. Et moi, je commence à en avoir assez, d'accord, de cette déconstruction systématique de ce qu'a pu faire le CNR, d'accord, où on reproche aux gens, finalement, de vouloir mieux vivre. Voilà, maintenant, il faut avoir honte, d'accord, de dire, ah là, ben oui, je veux profiter de ma retraite. Eh ben non, c'est honteux, non, tu n'en profiteras pas, tu te serreras la ceinture, tu devras travailler plus, tu devras gagner moins. Eh ben non, ce n'est pas l'ambition des Français aujourd'hui. Et en revanche, plutôt que d'aller dans les solutions simplistes, parce que moi aussi, je sais le faire, j'ai pas besoin d'avoir fait l'ENA, pour dire... il faut travailler plus, il faut gagner moins. C'est tellement simple. Maintenant, aux politiques de faire en sorte que la France retrouve son rang, aux politiques de faire en sorte de développer l'emploi, et aux politiques de faire en sorte que les Français vivent mieux. Et non pas, on ne les a pas élus pour qu'on vive plus mal. Ouais. Parce que là, n'importe qui sait le faire. Voilà ce que je voulais vous dire.
Merci beaucoup, Martial. C'était clair, précis et net. Et... Philomène nous dit la plupart des retraités touchent moins de 900 euros par mois. Non, ils ne vivent pas mieux qu'avant. On a Paul également en ligne qui nous appelle de l'Aveyron. Bonjour Paul.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Oui, je suis un peu étonné, effectivement, comme disait le précédent auditeur, de la façon dont réagissent certains, notamment M. de Closet. Je vais simplement rappeler que dans la réforme Sarkozy-Fillon de 2007-2008, les régimes spéciaux ont été alimentés par le régime des commerçants et artisans. On nous a déshabillés, nous autres commerçants et artisans. Ce qui veut dire qu'on a des retraites de misère à cause de ça. On a donné des millions de francs et des centaines de dizaines de milliers d'euros quand on est passé à l'euro, mais pour avoir des retraites de misère. Et je vais vous en citer un simple exemple. 53 ans d'activité, monsieur de Closet, puisque vous parlez là-bas en face. Je vous pensais plus malin que ça quand même. Hein. 53 ans d'activité, donc 40 ans d'artisanat et de commerce, 1040 euros de retraite, monsieur. Et j'ai donné et je peux vous donner mes talons de chèque, j'ai donné des dizaines de milliers d'euros. Dizaines de milliers d'euros. Et tout ça pour servir les autres. On s'est fait rouler dans la farine par Sarkozy, les commerçants et les artisans, au niveau des régimes de retraite, tout comme il nous a roulé dans la... par sa réforme de la taxe professionnelle. Voilà ce que je voulais dire.
Merci, on vous sent très en colère, Paul.
Oui, mais... constatation qu'il y ait aujourd'hui des petites retraites, oui, tout le monde le sait. Je vous rappelle simplement que il y a 50 ans, c'était tout, pratiquement les retraites, les vieux qui étaient les économiquement faibles. Et qu'aujourd'hui, s'il y a toujours aussi des petites retraites, en moyenne, le niveau de vie des seniors est supérieur à celui des actifs. Et maintenant, messieurs, je voudrais vous poser la question, qui paye les retraites? Qui paye les années de retraite supplémentaires? Il faut cesser de croire que ça tombe du ciel. C'est un jeu à somme nulle. Vous prenez aux actifs, à vos enfants, pour vous faire payer votre retraite. C'est ça, la vérité. Et c'est en France que les retraites pèsent 14% du PIB, le plus lourd de tous nos pays. Donc on ne peut pas augmenter les cotisations. Alors, et on vit plus longtemps. Donc il y a plus d'années à payer. Alors que fait-on? On charge encore nos enfants. Je n'ai pas mis des enfants au monde pour qu'ils aient comme seule obligation de s'occuper de leurs parents.
Allez, je voudrais qu'on dise quelques mots de Bernard Pivot, donc, qui a tweeté hier à propos de Greta Thunberg, qui a fait un tweet humoristique. « Dans ma génération, les garçons recherchaient les petites Suédoises qui avaient la réputation d'être moins coincées que les petites Françaises. J'imagine notre étonnement, notre trouille, si nous avions approché une Greta Thunberg. » Déferlement de tweets sur Internet, l'accusant de sexisme, etc., etc., etc. Il a répondu hier, précision, je suis baba devant la verve, l'audace, la colère, la violence des propos de Greta Thunberg à l'ONU. Ce qu'elle ose est inouï. Imaginez notre étonnement, notre peur, si dans ma génération de gentils ados des années 50, nous avions croisé cette jeune Suédoise furibarde. C'était de l'humour, ça ne passe pas, visiblement. Et puis, je ne sais pas si on peut rapprocher ce qui se passe pour Laurent Bouvet.
Bouvet, c'est très grave. Ouais. Bernard Pivot, ouais. c'est juste ridicule et désespérant. Mais c'est de l'humour
et ça ne passe plus. Donc, on ne peut plus rire. J'aurais dû peut-être en parler après l'histoire des poupées non genrées.
Je crois qu'on ne peut plus rire depuis l'assassinat des membres de Charlie Hebdo. Enfin, c'est clair.
Pourtant, tout le monde était Charlie et a revendiqué ce droit. Tout
le monde a oublié ce que c'était qu'être Charlie en réalité. Le côté subversif de l'humour, le côté coup de poing dans la gueule que peut avoir l'humour, c'est complètement fini. Et puis dès qu'on sort une blague, regardez ce qui arrive à Jean-Marie Bigard, on est sexiste, on est machin, parce que oui, les blagues, c'est cradingue, on va là où c'est cradingue pour dénoncer
Je suis pas tout à fait d'accord. Personne n'empêche Bernard Pivot ou Jean-Marie Bigard de faire des blagues de mauvais goût. Enfin, on a quand même le droit de dire que c'est aussi de mauvais goût. On n'est pas obligé tout le monde de rire de tout. Moi, ça ne me fait pas. Le tweet de Bernard ne m'a pas amusé.
Il y a une censure et il va y en avoir de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information. Twitter a décidé aux États-Unis, mais ça sera mondial, signaler davantage les tweets au contenu qu'il aura jugé offensant, puisque Twitter et Google et les GAFA en général ont leur système de censure, leur système de hiérarchie des valeurs, leur système d'évaluation de ce qui est bien et mal. Et en fait, toute l'histoire est partie notamment du fait de plaintes après des tweets de Donald Trump jugés racistes, sexistes, tout ce que vous voudrez, de tweetos se plaignant que le système permette au président des États-Unis, excusez du peu, de s'exprimer librement sur Twitter. Donc Twitter a répondu, eh bien dorénavant, on ne va pas lui interdire ses tweets, mais quand même, on préviendra les personnes sensibles que c'est un contenu potentiellement offensant, donc on va contrôler
pour
la parole du président élu des États-Unis. C'est extrêmement
ce
grave.
Côté cocon, la loi Avia va dans le même sens sur la censure, grave, sur la parole de haine sur Internet.
Et en plus, donnant le pouvoir de censure
aux plateformes qui ont leur loi et qui battent monnaie maintenant, le Libra de Facebook. Enfin, on est en train de complètement laisser tomber les lois de la République sous prétexte qu'il faut faire attention à tout le monde, il ne faudrait surtout pas blesser. Et c'est les plateformes qui décident de ce qui est possible de voir ou pas. Enfin, regardez la censure des saints sur Facebook. Même des œuvres d'art sont censurées.
Vous pouvez ne pas aimer, mais que ça évalue
la Bible
à Bernard Pivot, ce déferlement de haine.
Le lynchage sur les réseaux sociaux, c'est un vrai sujet. Ceci étant dit, la liberté d'expression, c'est aussi de pouvoir dire je trouve pas ça drôle.
Oui, absolument. Voilà.
Absolument. Mais les
je pense
deux,
qu'on
les
en parlera de ce qui se passe pour Laurent Bouvet
oui,
avec, la,
FC, ouais.
avec la FCPE qui a décidé de porter plainte contre lui puisqu'il a relayé des parodies de l'affiche de la FCPE. Jugé
sur
comme
les
des incitations accompagnatrices
voilées. Et non seulement il y a cette plainte de la Fédération des parents d'élèves qui est majoritaire, je le rappelle, mais il y a aussi un sénateur communiste du Val-de-Marne qui s'appelle Pascal Salvodelli, communiste, qui a saisi, enfin qui a interpellé Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui avait défendu
qui a dit que cette affiche était regrettable.
Regretter l'affiche disant qu'elle ne correspondait pas effectivement aux valeurs républicaines. Et bien ce sénateur communiste a demandé à Blanquer, puisque Bouvet est prof, de sanctionner Bouvet.
On en reparlera demain. Merci à tous les quatre pour ce débat très animé. Merci à vous, auditeurs de Sud Radio. Vous retrouvez André Bercoff dans un instant.